J'aimerais lire avec vous au premier chapitre du livre des Juges, versets 1 jusqu'à 16 pour ce matin. Juges 1, verset 1. Et il arriva, après la mort de Josué, que les fils d'Israël interrogèrent l'Éternel, disant, « Qui de nous montera le premier contre le Cananéen pour lui faire la guerre ?» Et l'Éternel dit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays en sa main. » Et Juda dit à Siméon son frère, « Monte avec moi dans mon lot, et faisons la guerre contre le Cananéen. Et moi aussi j'irai avec toi dans ton lot. » Et Siméon alla avec lui. Et Juda monta, et l'Éternel livra le Cananéen et le Phérézien en leurs mains. Et ils les frappèrent à Bézek 10 000 hommes. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils lui firent la guerre et frappèrent le Cananéen et le Phérézien. Et Adoni-Bézek s'enfuit, et ils le poursuivirent et le saisirent, et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Et Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces de leurs mains et de leurs pieds coupés, ramassés sous ma table, comme j'ai fait, ainsi Dieu m'a rendu. Et on l'amena à Jérusalem, et il y mourut. Et les fils de Juda avaient fait la guerre contre Jérusalem, et l'avaient prise. Et il avait frappé par le tranchant de l'épée, et avait livré la ville au feu. Et ensuite, les fils de Juda descendirent pour faire la guerre aux Cananéens qui habitaient la montagne, et le midi, et le pays plat. Et Juda s'en alla contre le Cananéen qui habitait à Hébron, or le nom de Hébron était auparavant Kiriath Arba, et ils frappèrent Shéchaï et Achiman et Talmaï. Et de là, il s'en alla contre les habitants de Débir, or le nom de Débir était auparavant Kiriath Sefer. Et Caleb dit, « À qui frappera Kiriath Sefer, il apprendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. » Et Othniel, fils de Kenaz, frère finé de Caleb, la prit, et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que comme elle entrait, elle l'incita à demander à son père un champ. Et elle descendit de dessus l'âne. Et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Et elle lui dit, « Donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources du haut et les sources du bas. Et les fils du Kénien, beau-père de Moïse, étaient montés de la ville des palmiers avec les fils de Juda au désert de Juda, qui est au midi d'Arad. Ils allèrent et habitèrent avec le peuple. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Ça doit être difficile pour plusieurs parmi nous de comprendre l'intention de ce livre et aussi l'intention que nous avons avec ces méditations, ces lectures. Ce serait peut-être bon de lire ensemble un verset d'abord dans 1 Corinthiens 10. Le Nouveau Testament nous montre que pour les croyants de cette dispensation, donc les croyants qui appartiennent à l'Église de Dieu, que Dieu a donné tout l'Ancien Testament comme un livre d'illustration. Les enfants aiment voir les livres d'illustration, n'est-ce pas? Et puis Dieu nous donne maintenant, à tous les croyants, un livre plein d'illustrations. Il explique ce sens dans 1 Corinthiens 10, verset 11, lorsqu'il résume là, l'histoire d'Israël. L'apôtre, dirigé par l'Esprit, nous dit, « Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type, ou, si vous voulez, illustration, image, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement. » Et d'autres versets de la parole nous disent « pour notre instruction, pour notre correction, pour notre encouragement, pour notre consolation ». Et ainsi nous voyons aussi que le Nouveau Testament explique que ces histoires et même les détails de la loi ont été donnés pour notre instruction. Donc aussi ce livre, duquel nous avons lu juste une petite partie, doit avoir une signification spirituelle pour nous. Lorsque j'utilise le mot spirituel, ça veut dire une signification qui a un sens spirituel et aussi un sens moral. Mais ça n'enlève pas la signification littérale. Ce sont des histoires littérales, ce ne sont pas des fables ou des imaginations. Ce sont des histoires littérales que nous lisons. Mais nous aimons maintenant poursuivre le sens spirituel selon l'instruction de 1 Corinthiens 10 et d'autres versets dans le Nouveau Testament. Mais pour pouvoir saisir cette signification, il faut voir aussi le contexte. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, il est toujours important de saisir le contexte. Donc, dans quel contexte ce livre de des juges est placé, vous voyez? On n'a pas le temps ce matin d'examiner les livres qui précèdent les juges, mais c'est bon peut-être de mentionner brièvement quelques points. Le premier livre de la Bible, c'est la Genèse, ce qui signifie origine, ou dans l'hébreu, au début. Donc, le livre de la Genèse nous donne les débuts, les origines. Les origines en rapport avec la création. Les origines aussi en rapport avec la vie que Dieu donne. On voit beaucoup de principes dans le livre de la Genèse qui sont mentionnés là déjà et plus tard élaborés dans la parole de Dieu. Il y a un thème, par contre, qu'on ne trouve pas dans le livre de la Genèse, c'est la pensée de la rédemption. Et dans l'Exode, nous voyons deux thèmes. Là, on voit les noms de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Ça, c'est donc une nouvelle phase, pour ainsi dire. C'est Dieu, le Créateur, qui se révèle dans le livre de la Genèse. C'est Dieu qui donne la vie, qui appelle Abraham, etc., dans la Genèse. Mais c'est le même Dieu qui veut avoir un peuple dans ce monde. Dans ce monde où il est rejeté, vous voyez, le Créateur est même rejeté par ses propres créatures. Tout le monde est en rébellion depuis la chute. Par contre, par la grâce de Dieu, Dieu a cherché un peuple, il leur a donné la nouvelle vie, hein, par la nouvelle naissance. Et ainsi, Dieu veut délivrer ce peuple de toute influence de ce monde. C'est ça qu'on trouve dans le livre d'Exode. Et c'est encore important pour nous aussi, pour les enfants aussi, à réaliser ceci. Si vous avez accepté par la foi le Seigneur Jésus comme votre sauveur, il faut maintenant continuer sur ce chemin et voir ce que Dieu veut que vous fassiez, que Dieu veut que vous soyez membre du peuple de Dieu. C'est ça qu'on trouve dans l'Exode. Et Dieu délivre ce peuple de la puissance du péché, de la puissance de Satan, de la puissance de la mort. Et il veut avoir ce peuple avec lui dans ce monde. Et ce monde est un désert pour la foi. C'est ça qu'on trouve dans Exode et Nombre. Et on voit que Dieu habite maintenant avec son peuple dans ce monde. Mais vous voyez, Dieu avait des plans. Dieu avait un conseil. Quel plan est-ce que Dieu avait pour son peuple? Il avait le plan de les introduire dans son pays. Le pays qu'il avait réservé pour Abraham. Et ainsi, Dieu a réservé un pays, vous voyez, pour nous, pour le peuple de Dieu, de cette dispensation. Je ne suggère pas que Dieu a mis de côté Israël entièrement. On va voir dans la parole de Dieu que Dieu a encore un plan pour son peuple terrestre. Mais nous avons affaire aussi avec le conseil de Dieu pour nous, un peuple céleste. Et là, on voit que Dieu avait un plan dès avant la fondation du monde, un conseil qui est appelé le propos éternel. Et vous voyez, Dieu aime introduire son peuple dans ses pensées, dans la jouissance de ses pensées. Et nous avons chanté ce matin de notre Seigneur Jésus qui est maintenant dans la gloire, dans le ciel. Vous voyez, Dieu aime que les croyants jouissent des choses célestes, des bénédictions célestes aujourd'hui. Mais Satan est. Satan ne veut pas qu'il y ait sur cette terre des gens qui appartiennent au ciel. Satan veut garder tout le monde sous son contrôle. Il hait les chrétiens. Maintenant, dans le livre de Josué, on voit comment ces promesses de Dieu sont réalisées, comment il entre dans le pays que Dieu avait promis à Abraham. Et ainsi, on voit dans le livre de Josué des images pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Comment entrer dans la jouissance des choses célestes? Il faut conquérir le pays. Il faut conquérir pratiquement ces bénédictions. D'un côté, Dieu avait donné tout le pays. Il avait donné. Et ainsi, Dieu a donné toutes les bénédictions célestes à tous les croyants. Aucune exception. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Aucune exception, c'est pour tout le peuple de Dieu. Mais il faut que le peuple entre dans le pays, que le peuple mette ses pieds sur cette terre. En autre mot, que nous prenions possession de ces bénédictions. C'est ça le point. Donc, pour résumer, on a dans le livre d'Exode, l'œuvre de Dieu pour nous délivrer, pour nous racheter. Dans le désert, on ne peut pas parler des détails du désert maintenant, ça va trop loin. Mais dans le désert, on voit une œuvre de Dieu en nous, pour nous former. Pourquoi? Pour nous rendre prêts, pour entrer dans le pays. Dans le désert, on voit que le peuple d'Israël, en général, a méprisé le pays. Ils ont méprisé les pensées de Dieu. Pour expliquer ce que ça veut dire, imaginons que nous recevons un beau cadeau, un beau présent de quelqu'un, très précieux. Puis on le jette par terre, on ne le regarde pas même, on ne prend pas même la peine d'ouvrir le paquet. Vous voyez, c'est honteux, c'est terrible. Et c'est ça que le peuple d'Israël a fait avec les bénédictions que Dieu avait préparées pour eux. Lorsqu'il était dans le désert, il ne voulait pas le pays. On peut le lire dans Nombre 13 et 14. Ils ont méprisé le pays que Dieu avait dans son cœur de leur donner. Et ainsi, malheureusement, la plupart des chrétiens ont méprisé les bénédictions célestes que Dieu leur donne dans le Seigneur Jésus. Méprisé. Et pratiquement, ça peut m'arriver, ça peut nous arriver qu'on méprise ces bénédictions, qu'on ne prenne pas le temps de les étudier, d'étudier les épîtres qui nous parlent de ces bénédictions, d'étudier les évangiles, surtout l'évangile selon Jean qui nous parle de ces bénédictions. Et on méprise ainsi ces bénédictions. Mais dans le livre de Josué, nous avons des encouragements, des illustrations pour nous aider à entrer dans le pays. Et là, on voit l'œuvre de Dieu avec son peuple. Dieu veut avoir son peuple avec lui pour partager avec lui les secrets de son cœur, les bénédictions de son cœur. C'est pour ça que Dieu nous donne tant d'illustrations pour nous aider. Et dans le livre de Josué, on voit donc d'abord l'entrée du pays. Ça, c'est une longue histoire jusqu'au chapitre 6. Et puis, la conquête du pays. Ce sont des histoires très intéressantes, mais nous ne pouvons pas les étudier maintenant. Si vous voulez, vous pouvez le faire à la maison pour voir ce progrès. Et après la conquête du pays, on voit que Dieu a distribué le pays, distribué par le sort. Chaque membre du peuple, chaque tribu plutôt, et puis chaque famille, et ainsi chaque membre avait une place dans le pays. Et ainsi, comme j'ai dit, chaque croyant a reçu les bénédictions célestes, mais aussi chaque croyant a une place spéciale dans ces bénédictions. Vous voyez, chaque croyant a une relation spéciale comme fils avec le Père. Et ainsi, Dieu le Père donne une portion spéciale à vous et à moi. Mais il donne aussi tout le pays. Ce sont deux pensées qui vont ensemble. Il ne faut pas les opposer, mais voir les ensemble. Et puis, le peuple a dû prendre pratiquement leur portion. Donc, la conquête du pays, c'était quelque chose pour tout le peuple. Mais prendre possession de votre possession, de votre héritage, ça, c'est quelque chose pour vous personnellement. On peut aider mutuellement, on peut donner des instructions, mais il faut que vous preniez possession de votre héritage vous-même. Moi, je ne peux pas le faire pour vous, votre mari ne peut pas le faire pour vous, ou votre épouse ne peut pas le faire pour le mari. Ainsi, les parents ne peuvent pas le faire pour les enfants. Les enfants aussi doivent prendre possession de ces choses personnellement. C'est bon de commencer à lire la parole à l'âge jeune, comme Timothée l'a fait dans la Bible, on le voit, dans le Nouveau Testament. Ça va nous préparer pour prendre possession de notre héritage. Maintenant, on voit dans le livre de Josué que Dieu avait une place spéciale pour les sacrificateurs, pour les Lévites, aussi une place spéciale où il habitait. Et on va revenir peut-être cet après-midi à une ville très spéciale dans ce pays, Gilgal. Gilgal était le point de départ pour leur attaque pour prendre possession du pays. Et on va en parler cet après-midi, Dieu voulant. Il y en avait d'autres villes importantes, Shiloh, où le tabernacle était placé à un moment donné, où le peuple est venu pour être là, autour de Dieu. Et là, Dieu les a dirigés. On a dans le livre de Josué aussi deux discours très importants, des discours où Josué a dit au revoir à son peuple, où il les a instruits, où il a donné aussi un exemple comme Josué 24, verset 15 à la fin. « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » On voit ici une une attitude de cœur, une décision prise pour le Seigneur. Et ainsi, Dieu nous demande aussi de prendre une position pour lui, de prendre une décision et de rester avec cette décision. Et on va voir ceci aussi dans le cas de Caleb et de sa fille Aksa, dans le passage que nous avons lu. Dans Josué 23, il a averti les dirigeants. Et aussi dans le chapitre 24, il a donné des instructions pour ôter les dieux, les idoles qu'ils avaient au milieu d'eux. Et on va voir dans le chapitre des juges qu'ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas suivi les instructions de Josué. Voilà, je vais revenir à ça tantôt, parce qu'il est important maintenant à réaliser ce que Josué signifie pour nous. Pour comprendre ceci, je dois revenir un peu à ce qu'on a eu. Moïse. Moïse était le grand libérateur du peuple de Dieu de l'Égypte. Moïse était aussi le grand prophète, le grand apôtre qui les a dirigés à travers le désert. Et ainsi, Moïse est une image de notre Seigneur Jésus dans sa vie ici-bas. Le grand prophète venu de Dieu pour présenter les pensées de Dieu. Le grand apôtre, il est aussi aujourd'hui dans la gloire. Le Seigneur Jésus est le grand apôtre, l'Épître aux Hébreux. Mais on voit que Moïse est mort. Et ainsi, on voit aussi que le Seigneur Jésus n'est plus avec son peuple sur la terre. Par contre, il est avec son peuple de la gloire. Nous voyons donc le Seigneur Jésus présenté par Moïse et après sa mort, il est ressuscité et glorifié. Dieu l'a exalté. Il est maintenant dans la gloire. Nous avons chanté de lui. L'homme qui est maintenant à côté de la majesté dans la gloire. Et le Seigneur Jésus a envoyé son esprit. Et par son esprit, il est avec son peuple. Et c'est ça qu'on voit dans le livre de Josué. Josué nous parle de notre Seigneur Jésus, l'homme glorifié qui est avec son peuple par son esprit. Mais c'est pas tout. Josué nous parle aussi de cette première génération. On le verra aussi dans le chapitre 2 du livre des Juges. On le voit aussi dans Josué 24, lorsque Josué est mort. On se demande, mais si Josué est une image de notre Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il peut mourir? Parce que le Seigneur Jésus dans la gloire, il ne meurt pas. Ça, c'est vrai. Donc, le Seigneur Jésus, qui est dans la gloire maintenant, ne peut pas mourir. Mais la génération à laquelle il s'est montré d'une façon particulière, la génération des apôtres, est décédée. Cette génération est restée longtemps jusqu'au jour de Jean, l'apôtre Jean, mais lui aussi est mort à un moment donné. Donc, dans ce sens-là, on peut dire « Josué est mort ». Josué signifie le Seigneur Jésus par son esprit avec cette première génération. Et pour comprendre vraiment la signification pour nous, on devrait lire Acte 20, verset 32. Je vais revenir à Acte 20 tantôt, mais peut-être c'est bon de lire simplement ce verset pour saisir ce que ça veut dire. Là, dans Acte 20, l'apôtre Paul a prévu qu'il ne serait plus là. Comme Josué, il a prévu qu'il ne serait plus là à un moment donné. Ainsi, l'apôtre Paul, il a donné des instructions aux anciens, comme Josué l'a fait. Il résume l'œuvre de Dieu par lui, ce que Dieu avait donné aux Éphésiens par l'apôtre Paul. Ainsi, Josué le fait. Il répète toute l'histoire d'Israël, dès Abraham jusqu'au jour où il parlait à eux. Ainsi, on voit un parallèle très clair entre Josué au moment de son départ et l'apôtre Paul, le moment où il a donné ce discours aux anciens d'Éphèse. Et après ses instructions, il dit même qu'il ne verrait plus sa face. Et dans le verset 32, il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage. » Vous voyez, c'est ici un passage de génération, pour ainsi dire. Paul s'en va. Les apôtres sont morts, sont plus avec nous. Et dans ce sens-là, cette énergie qui était au milieu des croyants, au début, donc, dans le premier siècle, n'est plus là. Et ça, c'est donc indiqué par la mort de Josué et par la mort de Paul. Mais les ressources de Dieu sont là. Et on voit ici dans ce verset 32 qu'il met l'emphase sur ceci. « Maintenant, je vous recommande à Dieu. » Dieu reste le même. Les anciens sont partis avec Paul aussi. Il n'y a plus d'anciens ordonnés comme dans ces jours-là. ça n'existe plus selon les pensées de Dieu. Mais la parole de Dieu est là. La parole de sa grâce est là. Et cela nous suffit. Parce qu'il dit qu'il a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage. Vous voyez? De vous donner un héritage. C'est exactement de ce que nous parlons. Cet héritage, c'est donc cette vie éternelle ou cette bénédiction céleste de laquelle nous avons parlé, que Dieu nous donne. Mais, vous voyez, de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés veut dire donner la jouissance pratique de ces choses. C'est ça que Dieu veut, que nous jouissions de ces choses. Et ainsi, les ressources sont en lui. Et ce matin, avec l'aide du Seigneur, on aime voir un peu les ressources que nous avons dans les temps où ces grands dirigeants ne sont plus avec le peuple de Dieu. L'apôtre Paul n'est plus avec nous, mais nous avons ses écrits, nous avons la parole de Dieu et la parole de sa grâce. Ainsi, dans les jours de Josué, après les jours de Josué, il n'était plus là. On lit dans Juges 1, verset 1, il arriva après la mort de Josué. Ça, c'est donc la date, pour ainsi dire. Ainsi, on peut dire, après la mort de Moïse, Josué est venu. Josué continue l'histoire. Ainsi, après la mort de Josué, les fils d'Israël continuent l'histoire. Mais la grande question est vraiment, comment ils vont continuer? Et ça, c'est pour nous aussi le point. On peut jouir de certains enseignements, on peut jouir de la présence de certains frères, nos ancêtres, mais à un moment donné, Dieu dit, mais c'est à vous maintenant. Comme Josué le fait dans Josué 24, à un moment donné, il montre clairement maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces choses? Et ainsi, Dieu place devant nous cette responsabilité. Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces choses? Avec ce beau pays que je vous ai donné? C'est ça la question que Dieu nous demande aujourd'hui. Est-ce que vous allez prendre possession de ce pays? Est-ce que vous allez vraiment vous occuper de ces bénédictions célestes? Et malheureusement, on n'a pas le temps vraiment d'étudier tous ces passages. Mais si vous voulez étudier à la maison, j'encouragerais beaucoup de lire le début de Tite 1, qui parle de cette promesse éternelle et de cette vie éternelle, et aussi 2 Timothée 1 au début, qui nous parle de cette promesse, et Tite 3, il y a une référence à ça. Ça nous montre que Dieu avait quelque chose dans son cœur dès avant la fondation du monde. Et c'est cette portion ou cet héritage que Dieu veut maintenant partager avec vous et moi. C'est cette possession que Dieu vous donne. Et Dieu veut que nous jouissions de cette possession. Mais si quelqu'un nous donne un pays, je veux dire un héritage, il faut faire la peine d'y aller. Il faut faire la peine, peut-être, de régler certaines choses pour qu'on puisse jouir de cet héritage, de cette maison ou de cette terre, vous voyez. Et ainsi, on voit que le peuple de Dieu, ici, dans les juges, doit faire quelque chose. Mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose sans connaître la pensée de Dieu, vous voyez? Ça, c'est maintenant la première ressource qui est mentionnée. Pour pouvoir prendre possession du pays, il faut connaître les pensées de Dieu. Quoi faire? Voilà. Nous avons toujours cette ressource de la prière. Le Seigneur Jésus a dit, à un moment donné, je m'en vais. Dans Jean 14, 15 et 16, on le voit. Mais il a dit, vous pouvez prier. Dans les Épîtres, on le voit aussi que le Seigneur Jésus a laissé cette possibilité. Et par la prière, il met à notre disposition toutes les ressources que les disciples avaient lorsque le Seigneur Jésus était avec eux. Vous me comprenez? Nous avons donc les mêmes ressources que les disciples avaient lorsque le Seigneur Jésus était avec eux. Et nous avons même plus de ressources parce que le Seigneur Jésus a donné en plus son esprit que les disciples n'avaient pas ce moment-là, ce temps-là. Donc, on a ces ressources, les mêmes ressources. Mais on doit être dépendant de Dieu pour pouvoir utiliser ces ressources. Il faut ouvrir nos cœurs pour recevoir de ces ressources. Et c'est pour ça qu'ils disent, qui de nous montrera le premier? Donc, la première ressource que nous avons dans un temps de déclin, c'est la prière. C'est introjeter Dieu. Maintenant, j'ai utilisé un mot que j'ai pas encore expliqué, un temps de déclin. Pourquoi est-ce que j'utilise ce mot? On va voir dans le livre des Juges qu'après le départ de Josué, tout est allé mal. Publiquement, tout va mal. Et cet après-midi, on va voir, Dieu voulant, encore comment ce progrès du mal ou ce déclin continue jusqu'à un point absolu de bas. Et dans ce livre de Juges, on voit donc d'abord une introduction pour nous expliquer comment ce déclin a eu lieu. Le déclin a eu lieu parce qu'ils n'ont pas vraiment écouté la voix de Dieu. C'est là où le déclin commence. Et on va voir, même dans ces premiers versets, que c'est là leur manque. Ils n'ont pas vraiment écouté la voix de Dieu et pas mis en pratique ce que Dieu leur avait dit. Et cela a de graves conséquences. Et ces graves conséquences nous sont présentées surtout dans chapitre 1 à la fin, chapitre 2. Et on va voir ces conséquences que Dieu a permises, que les nations qu'il devrait détruire resteraient dans le pays. Et dans chapitre 3 jusqu'au chapitre 16, on va avoir des réveils que Dieu a permis. Dieu a permis certains réveils et dans ces périodes de déclin. Mais c'était toujours un peu plus bas. Le niveau général est devenu plus bas. Et la troisième partie du livre de Juges nous parle, c'est un supplément de l'état moral qui était là déjà au début. Dans Juges 17 jusqu'à 21, on voit un résumé de ce qui se passait déjà dans les jours de Phinée. Phinée était le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Donc, dans un temps où les apôtres ne sont plus là, où les dirigeants que Dieu avait donnés au début ne sont plus là, c'est à nous à interroger Dieu, à connaître ses pensées. Voilà, qu'est-ce que Dieu répond? Ok, je m'excuse, il faut encore expliquer un autre point. Qui de nous montra le premier contre le Cananéen? Quelquefois, on a de la misère à comprendre si. Pourquoi est-ce que ce peuple a dû exterminer toutes ces nations? Pour comprendre ce point, il faut réaliser que Dieu avait donné beaucoup de temps à ces nations de se repentir. Ces nations sont mentionnées déjà dans Genèse 15, où Dieu a parlé à Abraham de sa semence, que sa semence posséderait, à un moment donné, ce pays promis. Et Dieu avait attendu longtemps. Il a dit, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son apogée, à son comble. Et Dieu attend. Il a attendu à peu près 400 ans. Et même après ce temps-là, Dieu a donné encore du temps pour que ces gens se convertissent, pour qu'ils se repentent. On le voit dans l'histoire de Rahab. Rahab, dans Josué 2, c'est un exemple. On voit l'œuvre de Dieu et une entière conversion, la repentance. Et pour ces nations, c'était encore le temps, même ce jour-là. Mais ils se sont endurcis contre Dieu, sauf certaines exceptions. Mais la plupart s'est endurci contre Dieu. Et ils vivaient dans un état moral tellement terrible, entièrement sous la puissance du diable. Je ne peux pas décrire les choses qu'ils ont faites là. C'est horrible, entièrement sous la puissance du diable. Mais c'était le pays de Dieu, vous voyez. Toute la création appartient à Dieu. Donc, à un moment donné, Dieu a le droit d'intervenir, de dire, jusqu'à ce point-là, et maintenant, ça suffit. Et on vit dans les mêmes jours aujourd'hui, où cette dégénération continue, jusqu'à ce que Dieu dise, ça suffit, j'arrête. Et Dieu se sert donc du peuple d'Israël pour exécuter son jugement sur ces nations. Dieu est juste, aucun doute là-dessus. Dieu n'est pas injuste ici en exterminant ces nations, mais vous voyez, Dieu veut le faire par son peuple. Il veut leur donner cette portion, ce pays qu'il avait dans son cœur leur donner. Donc Dieu se sert aussi de son peuple pour exterminer ces nations. Mais c'était le jugement de Dieu. Ça, c'est important à réaliser. Par contre, il y a aussi un contraste avec nos jours. Nous ne sommes jamais appelés par Dieu à exterminer des personnes. D'ailleurs, ce n'est pas notre responsabilité, ce serait la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement a reçu la puissance de tuer des personnes. Aucune autre autorité peut le faire. Donc, ça, c'est un rapport avec l'importance d'exterminer ces nations. Et Josué, mais aussi Moïse, avait averti, il avait dit, si vous ne le faites pas, ces nations vont vous influencer et après un certain temps, vous allez faire les mêmes choses. Et c'est ça qui est arrivé, c'est ça qu'on voit dans le livre des Juges. Ils étaient désobéissants. Donc voilà quelle leçon pour nous, être obéissants pour faire exactement ce que Dieu nous dit. Voilà. Où est-ce qu'on voit donc ce combat pour nous dans la parole de Dieu? Et là, j'aimerais suggérer que vous lisiez Éphésiens 6. J'ai mentionné tantôt l'entrée du pays, prendre possession du pays, la conquête et tout ça. Mais maintenant, le peuple a le pays. Mais là, ils doivent être forts dans le pays, contre l'ennemi. Ils doivent être forts pour garder le pays. Et ainsi, ils doivent vraiment se remettre au Seigneur, être dépendants de lui pour garder ce pays. Ils ne l'ont pas fait. Et ainsi, on voit que beaucoup de chrétiens n'étaient pas fidèles en rapport avec ce combat qu'on a dans Éphésiens 6. Ce combat qu'on ne peut pas étudier maintenant non plus, mais vous pouvez le lire chez vous. Éphésiens 6, à la fin, on a ce combat contre les autorités. Vous voyez, Paul le dit déjà dans 2 Corinthiens 10, notre guerre, notre combat n'est pas contre les puissances de chair, contre le sang et la chair, mais contre ces puissances de l'ennemi. L'ennemi peut servir de la chair et du sang pour nous opposer, mais le vrai combat est contre les puissances de l'ennemi, les autorités. Tout cela, on voit dans Éphésiens 6, les puissances du diable. C'est là le conflit que nous avons. Et là aussi, on voit, Éphésiens 6, que ce conflit est réalisé sur nos genoux. On voit là un soldat qui a toute l'armure de Dieu pour faire ce conflit. Je répète, ce serait très intéressant vraiment à étudier ce chapitre, parce que cela nous montre exactement ce que nous devons faire selon ces instructions de juge. Mais ce combat est réalisé sur nos genoux. Comme ici, qui de nous montera le premier? Et l'Éternel dit, Judas montera. Il donne la réponse, voici, j'ai livré le pays en sa main. Donc c'est la promesse de Dieu, de sa part, d'aider maintenant à prendre possession de son héritage. Le pays était déjà conquis dans son entier. Maintenant, il fallait qu'il prenne possession de son héritage, de sa portion. Et Dieu lui vient en aide aussi pour prendre possession de cette partie. Mais là, qu'est-ce que Judas dit? Verset 3. Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi. Vous voyez, Judas avait l'exercice. Judas était indiqué par Dieu de faire ce combat. Et maintenant, il engage son frère. Dans le livre de Josué, on voit clairement que Siméon était dans une position inférieure comparée avec Judas. Judas avait une portion très grande et Judas avait même donné une portion de son héritage à Siméon. Donc Siméon avait vraiment une place inférieure. Mais il fallait aussi que Siméon écoute la voix de Dieu. Donc là déjà, on voit un élément de faiblesse. De notre côté, on pourrait dire, mais c'est précieux quand même, ces relations fraternelles, et c'est vrai. Il faut, de notre côté, il faut apprécier les relations fraternelles que Dieu nous donne. Dieu, le Seigneur, nous donne des frères, des sœurs. Ce sont des relations dans lesquelles il nous a placés. Et on doit apprécier ces relations. C'est d'ailleurs une de nos ressources. Quelle joie dans le temps du déclin si nous pouvons être ensemble. Dernièrement, j'ai lu l'histoire de Jonathan qui est allé combattre les Philistins avec son jeune homme qu'il avait avec lui, qui a porté ses armes. Il avait la communion entre les deux. C'était comme un frère, un lien fraternel. C'est très précieux. Et c'est donc une des ressources que Dieu nous donne dans un temps de déclin, que nous avons encore des frères avec les mêmes exercices. On le voit même dans le livre de Malachie, à la fin de l'histoire d'Israël. Même là, dans le temps de ruine, il y en avait qui parlaient ensemble. Vous voyez, ce sont des ressources que Dieu nous donne aussi. Mais on doit être dépendant de Dieu, même dans ces liens fraternels. C'est ça le point qu'on doit saisir ici. Les relations fraternelles, c'est quelque chose que Dieu donne, c'est une bénédiction. Mais même là, on doit être dépendant de Dieu pour être exercé, pour être dirigé par Dieu. Donc Siméon devrait être exercé lui aussi, malgré le fait qu'il était inférieur à Judas. Ok, dans le verset 3, « Monte avec moi dans mon lot et faisons la guerre contre le Cananéen. Et moi aussi, j'irai avec toi dans ton lot. » Donc c'est ici un pacte qu'ils font, les uns pour les autres, ils vont aider mutuellement, ce qui est bon, mais il y a ici donc cet élément de faiblesse parce que c'est un manque de dépendance de Dieu. Et Siméon alla avec lui. Et puis on lit dans le verset 4, « Judas monta et l'Éternel livra le Cananéen et le Phérésien en leurs mains. » C'est la grâce de Dieu. Et c'est souvent le cas pour nous aussi, que nous faisons quelque chose pour le Seigneur dans la dépendance, mais que c'est mélangé avec un élément de faiblesse, comme on le voit ici. Mais le point, j'aimerais souligner vraiment, parce que ça c'est le point de départ, un élément de désobéissance. Et on va voir plus tard, surtout dans la deuxième partie de la parole de Dieu, où ça nous amène. Donc, ils ont la conquête, ils ont la victoire, Ils frappèrent à Bézek 10 000 hommes. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. C'était un des seigneurs, donc, du pays qui était resté après la conquête du pays. Peut-être pas avec la même autorité que les rois que Josué avait exterminés, mais quand même, un homme avec une grande autorité quand même, une grande puissance. Parce que dans le verset 6, nous voyons, ou dans le verset 7, nous voyons qu'il avait 70 rois sous lui, qu'il avait conquis. Donc, ça nous parle de son importance. Dans le verset 6, il y a un autre élément de faiblesse. Qu'est-ce que les hommes de Juda ont fait? Ils le poursuivirent et le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Dieu avait dit par Moïse et par Josué de tuer ces nations. Même les rois, et justement les rois, ils ne l'ont pas fait. C'est donc un autre élément de désobéissance. Et pas seulement cela, ils sont influencés par les coutumes de ces nations. Parce que c'était leur coutume de couper les pouces des mains et des pieds. Et ainsi, les mêmes cruautés ils font. C'est donc l'influence maintenant de ces nations, là où ils sont désobéissants. Il aurait dû le tuer tout de suite. Verset 7, cet homme, Adoni-Bézek, reconnaît la rétribution de Dieu. Il reconnaît la main de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il s'est converti, mais il reconnaît que c'est juste le juste jugement de Dieu qui lui arrive. Comme j'ai fait, ainsi Dieu m'a rendu. Et on l'amena à Jérusalem. Il y mourut. Ça, c'est un point important. Ils l'ont amené à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'endroit, selon les pensées de Dieu, où Dieu devrait habiter au milieu de son peuple. Si vous voulez lire Deutéronome 12 et aussi le psaume 132, d'autres passages, vous allez voir que Jérusalem était une place que Dieu avait réservée dans son cœur pour habiter là avec son peuple. Mais il fallait aussi que le peuple cherche cette place. Dieu ne l'a pas révélée. Voilà de nouveau un point duquel on pourrait parler longuement, mais on n'a pas le temps de le faire maintenant. Parce que Jérusalem, c'est la place de l'unité du peuple de Dieu, où Dieu veut que le peuple habite avec lui. Donc ça, c'est une autre ressource que nous avons. C'est Jérusalem, le Jérusalem, la Jérusalem de Dieu. Vous voyez, verset 8, « Et les fils de Juda avaient fait la guerre contre Jérusalem et l'avaient prise. » Jérusalem, c'est la place que Dieu avait réservée pour y habiter. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Église, le peuple a perdu cette place bien vite. Ici, ils l'ont prise, mais plus tard, on voit qu'ils n'ont pas habité là. Peut-être c'était une partie de Jérusalem et qu'ils n'ont pas pris la forteresse de Jérusalem. Mais quoi qu'il en soit, on voit au début, il avait cette ville, mais plus tard, ils l'ont perdue. Donc, une autre ressource que Dieu nous donne, c'est Jérusalem. Mais est-ce qu'on va garder Jérusalem? Ça, c'est la grande pensée. Question. Verset 9, « Et ensuite les fils de Juda descendirent pour faire la guerre aux Cananéens qui habitaient la montagne, et le midi et le pays plat. » Donc ils sont zélés, et le Seigneur est avec eux. Verset 10, « Et Juda s'en alla contre les Cananéens qui habitaient à Hébron. » Voilà, c'est l'histoire de Caleb. Si vous voulez lire Josué 14 et 15, vous allez voir la même histoire avec plus de détails qu'ici. Comment Caleb avait l'exercice de prendre possession de son héritage. Caleb voulait prendre possession de son héritage. Et ainsi, il a encouragé toute la tribu de Juda pour le faire. Vous voyez l'influence d'un seul homme. Et dans les jours de déclin, on a donc deux possibilités. On peut influencer les autres pour encourager, comme Caleb l'a fait. Caleb veut dire de tout cœur. Il a suivi le Seigneur avec tout son cœur. Ou bien on peut influencer les frères et les sœurs par la négligence ou par la désobéissance, comme on le voit plus tard. C'est deux possibilités. Donc ici, on a une autre ressource. Hébron était prise. Hébron, c'est la place de la communion. Dieu veut avoir la communion avec nous. Jérusalem, c'est la place où ils ont servi Dieu. Et plus tard, le temple, tout ça, le service, l'accès de Dieu. Mais Dieu veut aussi la communion avec son peuple, mais aussi les frères ensemble. Le psaume 133, on voit cette communion. Voilà, ça c'est notre Hébron, cette communion ensemble dans la présence de Dieu. Et Juda, par l'exercice de Caleb, a pris cette possession. Quel encouragement! Et or le nom d'Hébron était auparavant Kiryat Arba, c'était donc le chef de cette ville. Ils frappèrent aussi ses fils. Ce sont toutes des influences du pays, de ces nations cananéennes contre Dieu. Il faut donc conquérir ces éléments pour jouir la communion, il faut conquérir ces quatre géants, Kiryat Arba, qui était le père, et aussi Sheshai, Achiman et Talmaï, pour jouir de la communion. Ainsi, aussi dans nos jours, il y a des entraves, des empêchements pour la communion des fraternelle et la communion avec Dieu, il faut conquérir ces éléments, ces empêchements pour jouir de la communion. Et Caleb nous donne l'exemple. Caleb qui avait le pays dans son cœur, qui avait joui du pays et n'a jamais oublié le pays de son cœur, dans son cœur. Il était toujours là. Voilà, il a aussi influencé son gendre, qui était le fils, son frère, Othniel. Donc un autre encouragement, Caleb a influencé par son exemple Othniel, qui est devenu plus tard un des juges, qu'on va voir dans chapitre 3, Dieu voulant. Et qu'est-ce que lui a fait? Verset 11, et là il s'en alla contre les habitants de Débir. Or le nom de Débir était auparavant Kiryat Sefer. Kiryat Sefer veut dire ville du livre. Et ça, c'était donc une autre forteresse des Cananéens. Hébron, qui était appelé Kiryat Arba, c'était une forteresse qui était construite avant Zoan. Zoan était une des villes importantes de l'Égypte. Donc même avant, l'Égypte avait fondé ces villes importantes, Hébron était déjà là. Ça nous montre donc la puissance que ces Cananéens avaient. Et comme Kiryat Sefer doit changer de caractère, comme Kiryat Arba a changé de caractère, ainsi aussi Kiryat Sefer doit changer de caractère. Cette forteresse qui nous parle de l'intelligence de l'ennemi, doit être détruite et ça devient la place où Dieu parle. Débir veut dire oracle. Vous voyez, la place où il y avait la communion de ces géants et leur puissance, c'est devenu la communion avec les frères. Ainsi, la place où il y avait l'intelligence de l'ennemi, avec toute son immoralité, a été détruite et est devenue une place où Dieu parle, où nous écoutons la parole de Dieu. L'oracle, Débir veut dire oracle. C'est un encouragement pour nous tous, pour nos jeunes surtout qui doivent étudier. On doit être occupé de l'intelligence des Cananéens. Quelquefois, on doit même lire des livres qui ne sont absolument pas bons. Et puis, on doit donc vaincre ces influences pour que cette place devienne l'oracle où Dieu nous parle. Un autre encouragement, on a donc dans le verset 12, « À qui frappera Kiryat Sefer, il apprendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. » Je veux parler maintenant d'Aksa. Caleb n'a pas seulement influencé Othniel, il a aussi influencé sa fille Aksa. Aksa qui était très décidée, on le voit plus tard. Et dans toutes ces personnes, on a donc aussi des images, des ressources que Dieu nous donne. Caleb, on ne lit pas de sa mort. L'esprit de Caleb est resté parmi le peuple de Dieu. Et ainsi, Dieu veut que l'esprit de Caleb reste aussi au milieu de nous, pour que nous puissions suivre son exemple, pour que nous puissions être des Othniel et des Aksa. Othniel veut dire lion de Dieu. Là, on a donc la puissance de Dieu qui est mise à notre disposition pour conquérir le pays. Caleb, on a vu déjà, entièrement, son cœur entièrement pour Dieu. Et Aksa, cela se réfère à notre marche pratique, l'état subjectif pour ainsi dire. Son nom veut dire, c'était comme une chaîne que les gens ont mis autour de leurs pieds. Ainsi, ça nous parle de la marche. Et sa marche était bonne, comme on va voir maintenant, versets 14 et 15. Elle a incité son mari à demander à son père un champ. Elle avait vraiment à cœur le pays. Elle voulait avoir un héritage dans ce pays, comme Caleb l'avait voulu. Et ainsi, elle encourage même son mari. Ça peut nous arriver aussi que la sœur encourage son mari. Et puis, elle demande encore quelque chose à son père, verset 15. Elle lui dit, « Donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du Midi. » Donc, sa bénédiction initiale, c'était qu'elle a reçu un champ, mais maintenant, et c'était donc une terre du Midi. C'était une portion du pays, mais le pays comme tel n'est pas suffisant. Il faut avoir aussi des fruits dans ce pays. Et c'est Aksa qui est exercé pour avoir des fruits. Et pour pouvoir produire des fruits, il faut avoir de l'eau. Vous voyez, Dieu nous donne une portion dans le pays céleste. Mais il faut produire du fruit. Dans Deutéronome 8, si vous voulez, c'est un autre passage qu'on aimerait lire ensemble avec ceci. Dieu nous parle des fruits du pays. Dans Deutéronome 11 et 14 également. Et là, on voit l'importance du pays parce que ce pays a produit des fruits. Et vous voyez, Dieu nous donne des bénédictions, mais c'est pour avoir des fruits. Paul a dit, béni soit le Dieu et Père. Ça, c'est le fruit. Il a adoré Dieu. Dieu veut que nous produisions des fruits. Et là, il nous donne encore une autre ressource. Ce sont les sources du haut et les sources du bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ressources que Dieu donne maintenant pour que nous puissions produire du fruit, pour que nous puissions adorer Dieu et vraiment jouir de ses bénédictions célestes pour produire du fruit pour Dieu. Ça, c'est le point. Il nous donne les ressources de l'esprit. Des sources du haut, ça veut dire l'esprit qui est venu d'en haut. On le voit dans Jean 4 déjà. Lorsque le Seigneur Jésus parle avec cette femme de la Samarie, après cette conversion, elle parle de l'adoration. Et le Seigneur Jésus continue, il parle de l'esprit qui descendrait et qui produirait une fontaine d'eau vive. Voilà, ce sont les sources du haut. L'esprit qui est venu du haut, du ciel, pour être avec nous et pour produire des fruits. Mais vous voyez, le point ici, c'est pas seulement le fait que nous avons reçu l'esprit, c'est que nous ouvrions nos cœurs pour que l'esprit puisse opérer, pour que nous puissions ôter tous les empêchements pour que l'esprit puisse fonctionner. Ça, c'est le point. Et ainsi, l'esprit va produire des fruits qui montent en haut, cette fontaine d'eau vive. Et aussi, l'esprit va produire des effets horizontaux, pour ainsi dire, des effets horizontaux. Les sources du bas, peut-être on peut penser à Jean 7 en rapport avec ceci. Des sources d'eau, ces eaux vives qui coulent de notre intérieur. Les choses que nous avons apprises de la parole de Dieu et digérées, nous pouvons partager avec d'autres. On peut aussi penser à ce que Dieu donne dans les périodes du haut de nos vies ou dans les périodes du bas où nous sommes déprimés, où nous sommes dans la vallée. N'importe dans quelle situation dans nos vies, il y a ces sources d'eau vive disponibles pour vous. Ça, c'est un encouragement. Donc, on voit que Dieu donne des encouragements à son peuple et que ces ressources sont disponibles toujours. Dieu a bénédiction disponible pour vous et moi. On peut profiter de ces bénédictions en être dépendant de Dieu dans la prière, en jouissant de nos relations fraternelles, en jouissant aussi de Jérusalem, la place où on peut servir Dieu, avoir l'accès de Dieu, en jouissant de cette communion, Hébron, en écoutant ces oracles, cette parole par le ministère prophétique de la parole, en jouissant du pays comme Othniel a fait, comme Axel a fait, ayant ces ressources de l'esprit. Tout cela est disponible pour vous et moi, même dans un temps de ruine. Et on voit, pour terminer maintenant ce passage que nous avons lu, le verset 16, qu'il y a aussi une place pour l'étranger. On peut expliquer ce verset de deux façons différentes. On pourrait voir un aspect positif, le fait que les Kéniens sont venus avec Judas. Vous voyez, le Kéniens, c'était le beau-père de Moïse, et le beau-frère de Moïse avait refusé d'aller avec Moïse. On peut le lire dans Nombre 10. Là, d'ailleurs, on voit aussi un manque de la part de Moïse, parce qu'il voulait que son beau-frère le dirige à travers le désert. Mais ici, on voit donc les descendants de cette tribu qui voulait rester avec les fils de Judas. C'est donc quelque chose de positif. Ainsi, ça peut nous arriver que des proches de nous veulent être avec nous parce qu'ils ont vu que Dieu nous bénit. Plus tard, par contre, on voit peut-être aussi un aspect négatif. Ils ne se sont jamais vraiment mélangés, c'est pas le bon mot, mais ils ont toujours gardé leur identité propre au milieu du peuple de Dieu. Donc on peut interpréter ça aussi d'une façon négative. Ils n'ont jamais vraiment pris une place au milieu du peuple de Dieu, comme Caleb l'a fait. Caleb, il avait aussi une origine païenne, mais il est devenu le prince de la tribu de Judas. Les Kéniens n'ont jamais fait ça. Donc ça, c'est peut-être une pensée négative en rapport avec eux, mais si on poursuit l'histoire de ces Kéniens, on va voir plus tard que les fils de Rékab étaient là, même dans les jours de Jérémie, où le peuple avait grandement manqué, les Rékabites étaient fidèles. Donc là, il était même un exemple pour le peuple. Quoi qu'il en soit, on a toujours des provisions de la part de Dieu pour l'étranger. Et il faut avoir aussi la même pensée, les compassions de Dieu envers lesquelles Dieu veut être montré ses compassions. Vous voyez, lorsque Dieu ne montre pas ses compassions parce qu'il a donné des instructions à tuer ces gens-là, là, nous ne devons pas non plus montrer des compassions ou de miséricorde. Si vous pensez que vous pouvez faire un contrat, pour ainsi dire, avec le monde, ça ne va pas. Cela va nous rendre incapables à prendre possession du pays. Si nous avons une alliance avec le monde, comme le peuple l'a fait plus tard, on ne sera pas capable de jouir du pays. On sera exposé aux influences de ce monde et on va suivre leurs méthodes, comme nous avons vu déjà dans le verset 7, comment ils ont coupé ces doigts, etc. On va suivre les influences de ce monde, on va s'associer au monde, on va, par le mariage plus tard, on voit comment ils ont même commencé à adorer les mêmes idoles. Donc c'est le chemin du déclin. Ça c'est l'arrière-plan. Mais on a des lumières qui brillent, qui donnent des exemples pour nous, qui sont très encourageants. Puis, Dieu voulant, cet après-midi, on va s'occuper donc plutôt de ce progrès du déclin et quel était le résultat en rapport avec la position publique que Dieu a prise avec eux